Et le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une infection égale une injection si vous avez eu le Covid après vos deux premières doses. Plus besoin de faire de rappel de vaccin, annonce d'Olivier Véran hier soir. Détail dans un instant. Certains ne gagnent même pas le SMIC. Les travailleurs essentiels dans la rue, aujourd'hui à l'appel de la CFDT, caissières, agents d'entretien ou de sécurité veulent de meilleurs salaires. Dans ce journal aussi, la fin de la grève des éboueurs à Marseille pour 40 euros supplémentaires sur la fiche de paye. Mais toujours des montagnes de déchets à ramasser. Et avec vous, Nicolas et Léa, un portrait de la jeunesse en 2022.
Et c'est une jeunesse plurielle, pour reprendre le titre de cette enquête de l'Institut Montaigne. Les deux co-auteurs seront à notre micro tout à l'heure. Marc Lazare, Olivier Galland, et vos questions au 01 45 24 7000.
Des renforts militaires en Roumanie, au sein de l'OTAN, les États-Unis et la France envoient des hommes pour rassurer les pays de l'Est face aux menaces russes. Un grand bol d'air à la montagne, les vacanciers de février veulent de la neige, cette année les stations sont pleines, eux veulent des médailles, les Français entrent déjà en lice au JO d'hiver, qualification des épreuves de ski de bosse, aujourd'hui nous serons en Chine et à l'Opéra Garnier pour une version totalement dépoussiérée des Noces de Figaro de Mozart.
France Inter.
Des millions de Français covidés depuis le mois de décembre, encore plus de 300 000 hier. Si vous êtes dans ce cas et que vous avez été vacciné l'an dernier, vous n'aurez pas besoin de la troisième dose. Le rappel n'est plus nécessaire, annonce Olivier Véran, et vous garderez votre passe vaccinal, Ajra Mohamed.
C'est une nouvelle règle censée simplifier les choses, mais à certaines conditions. Premier cas de figure, une personne est infectée par le Covid après avoir reçu deux doses de vaccin. Eh bien, elle n'aura plus besoin de faire la troisième dose de rappel 4 mois plus tard. Autre scénario, vous avez reçu une seule injection, mais vous êtes tombé malade 2 fois. Eh bien, là non plus, pas besoin de rappel. Olivier Véran explique avoir décidé ce nouveau règlement suite à un avis de la Haute Autorité de Santé. Elle estime que pour bénéficier du pass, il suffit que le système immunitaire ait été stimulé à 3 reprises au moins. Mais attention, si une personne a été infectée 3 fois et qu'elle n'est pas du tout vaccinée, ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, il faudra avoir reçu une injection contre le Covid pour obtenir son pass.
Et le pire est derrière nous, selon le ministre de la Santé. Si ça continue comme ça, le pass vaccinal pourra être levé avant le mois de juillet. D'ici là, l'assurance maladie annonce qu'elle va en supprimer 300 000 dans les jours qui viennent. Des faux passes identifiés après vérification auprès de médecins dont on a usurpé l'identité. Pendant la première vague, on leur disait merci, comme aux soignants. Les travailleurs de la deuxième ligne, comme les avait appelés Emmanuel Macron, en sont souvent restés là, essentiels au bon fonctionnement du pays. Des agents d'entretien, des caissières, des livreurs, des vigiles, entre autres, seront dans la rue à Paris aujourd'hui. Manifestation organisée par la CFDT, Delphine Simon, pour mettre la lumière sur la question des salaires les plus bas du privé.
Comme la plupart des salariés des entreprises du nettoyage, Stéphanie Pieters, agent de propreté à Dunkerque, n'a touché aucune prime Covid, même si elle a continué de travailler durant les confinements.
On ne demandait pas forcément 1000 euros. Hein. Le 3/4 des entreprises de nettoyage n'ont rien donné. On nettoie, mais on désinfecte beaucoup plus qu'avant et rien n'a changé en fait. Nous, personnellement, nous n'avons rien eu.
Son salaire, 10,76 euros brut de l'heure. Dans la branche propreté, le salaire minimum rattrape à peine le SMIC, sans espoir d'amélioration. Dans la sécurité et la prévention aussi, l'attente est forte et les négociations au point mort, explique le délégué CFDT Alexandre Villegas.
Il y a quand même des salariés dans cette profession qui travaillent de manière prolongée pendant 12 heures. Tout ça pour être en dessous du SMIC et on leur demande d'être vigilants. Ils n'ont pas de chaise, ils ne peuvent pas s'asseoir, des fois ils n'ont même pas de temps de repos.
Salaire, conditions de travail, qualification, depuis 2 ans, il ne s'est rien passé pour les travailleurs essentiels, affirme la CFDT. Côté patronal, on joue la montre, explique Véronique Robin à la Fédération des services.
Se voir proposer des augmentations qui sont inférieures à l'inflation, mais au bout d'un moment, c'est le salarié qui finance son poste aussi. Donc non seulement ils sont quasiment tous au SMIC, mais en plus de ça, ils y restent peu ou prou toute leur carrière.
Le travail doit payer, affirme le ministre de l'économie qui durcit le ton face aux branches concernées. Pour l'instant, les salariés ne voient rien venir.
Eux ont obtenu 40 euros et ils lèvent la grève. Les éboueurs de Marseille vont reprendre le travail après 15 jours sans ramasser les déchets. Il y en a encore 2000 tonnes dans les rues. Un accord, William Deleuze, a été trouvé hier soir avec la métropole.
Pour 40 euros bruts par mois d'augmentation, c'est le contenu de cet accord. Objectif compenser des inégalités salariales. D'après Force Ouvrière, un éboueur de Marseille gagne moins que son confrère de certaines villes voisines. À la tête du syndicat, Patrick Ruet remporte ce bras de fer avec la métropole.
On en était dans une situation
où il fallait gommer cette iniquité, mais où il fallait aussi reprendre le travail, puisque aujourd'hui, la ville était dans un état où elle n'aurait jamais dû être. S'il y a une chose à dire aujourd'hui, c'est plus jamais ça, et c'est regrettable d'avoir eu tant de jours passés à s'ignorer et à ne pas pouvoir discuter. S'il y a des responsables, on prendra une part de responsabilité s'il le faut, mais nous sommes loin d'être les seuls responsables.
D'autres négociations sont en cours pour une deuxième augmentation ultérieure. Pendant ce temps, les montagnes d'ordures dans les rues, le plastique dans la Méditerranée. Adrien Piquera de l'association Un déchet par jour décrit une catastrophe écologique.
C'est pas parce que la grève se termine que les déchets vont disparaître. Les déchets vont mettre 3 semaines à 1 mois à être collectés, le temps du retour à la normale. Donc le péril sur l'environnement est bien réel et constant, et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras.
Gants et sacs poubelles en main, des habitants seront à pied d'œuvre dès ce matin pour déblayer une partie des quelques 2000 tonnes de déchets dans la ville. Marseille, William Delesseux, France Inter.
Des rafales à 145 km/h en altitude à La Réunion. L'île est en alerte rouge depuis hier, ses habitants confinés. Le cyclone Batsira est stationné à 200 km au large. 36 000 foyers sont sans électricité, un peu plus sans eau potable. La préfecture appelle les Réunionnais à rester chez eux toute la journée, même si pour l'instant les dégâts sont peu importants, comme le constate Eric, cet habitant de Saint-Denis, joint ce matin par Mathilde Dehimi.
On a eu la nuit avec du vent, mais pas beaucoup de pluie. Il n'y a pas eu grand-chose. Voilà, des rafales certainement une centaine de kilomètres heure, comme le dit Météo France. On n'a pas eu beaucoup de pluie. Météo France nous en annonce, donc on va attendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, ben voilà, les végétaux ont un peu cassé et puis pas grand chose d'autre. Voilà, on les attend, les fortes pluies. Bon, il y a eu 500 mm au volcan en 24 heures. Ça fait un demi-mètre, c'est quand même pas mal. Mais sur le littoral, il n'y a rien eu. Donc, je dirais que pour l'instant, on est confiant. Voilà, le cyclone va passer, il va aller sur Madagascar et nous, on est confinés.
Voilà, 12 personnes ont été blessées, notamment à cause de leurs groupes électrogènes qui les ont intoxiquées au monoxyde de carbone.
8h08, Florence, encore un coup de fil entre Emmanuel Macron et Joe Biden pour parler de l'Ukraine cette nuit.
L'intense activité diplomatique continue face aux menaces d'attaques russes et chacun montre ses muscles. Les États-Unis envoient 3000 soldats en renfort en Europe de l'Est qui viendront soutenir l'OTAN en Pologne et en Roumanie notamment, où la France va aussi envoyer quelques centaines d'hommes. Jean-Yves Le Drian y est déjà à Bucarest depuis hier soir pour une concertation avec les pays de la région, Bertrand Galichet.
La Roumanie craint de se retrouver en première ligne face à la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine et réclame l'appui de ses alliés de l'Ouest. Un soutien qu'est venu apporter ici Jean-Yves Le Drian en célébrant dans l'immense salle du Parlement de Bucarest le 15e anniversaire de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne.
Notre voisin russe a choisi de se conduire comme une puissance de déséquilibre, en remettant en cause les grands principes de la sécurité européenne et en se livrant à des manœuvres d'ingérence jusque sur les territoires de l'Union européenne et de l'OTAN.
Dans ce pays souvent envahi au cours de son histoire et qui a adhéré à l'Alliance Atlantique en 2004, la crise ukrainienne et les manœuvres russes en mer Noire angoissent une population résolument tournée vers l'ouest de l'Europe. Ce matin, Jean-Yves Le Drian participe à une réunion ici avec 9 anciens pays du bloc soviétique, désormais exposés, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie, ainsi que les États baltes. Tous partagent la même inquiétude, malgré les renforts militaires promis par l'OTAN, les États-Unis et la France. Bucarest, Bertrand Galichet, France Inter.
La crise ukrainienne qui accapare Emmanuel Macron en première ligne en ce moment sur la scène internationale et européenne. Il était hier soir à la réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union pour parler immigration. Maîtriser les frontières, c'est la priorité de sa présidence de l'UE. Emmanuel Macron voudrait aussi harmoniser les critères de l'asile en Europe, ce qui est loin d'être le cas. Exemple au Danemark, l'un des pays les plus durs sur la question migratoire. Marie-Pierre Véraud est sur place pour France Inter.
Plus un seul demandeur d'asile sur le sol danois, c'est le rêve du gouvernement, qui est aussi le premier en Europe à autoriser le renvoi de Syriens à Damas, jugé sûr. Permis de séjour révoqué, famille déchirée, raconte Mikaela Bendingsen de l'association Welcome Refugees.
Le cas typique, c'est que nous aurons les jeunes hommes et les hommes d'âge adulte qui vont pouvoir rester car ils risqueraient d'être enrôlés dans l'armée s'ils étaient renvoyés. Alors que les jeunes filles et les femmes célibataires vont, elles, perdre leur protection car elles n'ont pas de raison politique de demander l'asile. Donc les familles sont séparées.
Ces décisions sont aussi absurdes puisque, faute d'accord avec Damas, le gouvernement danois ne peut expulser. Mais ce qu'il souhaite, c'est d'abord décourager toute nouvelle immigration. Et sur la scène intérieure, prendre des voix à la droite en adoptant sa ligne dure, cela fonctionne pour l'instant, avertit Thomas Gammeltoft Hansen de la faculté de droit de Copenhague.
Une majorité de Danois soutient une politique d'asile et de migration très restrictive, mais on peut voir des changements. Récemment, par exemple, des voix se sont élevées, particulièrement dans les partis de droite, pour que l'on assouplisse les règles, car le marché du travail requiert davantage de main-d'œuvre étrangère.
Et de mettre en garde, à se dépeindre sous un jour hostile aux étrangers, le Danemark risque de décourager aussi cette main-d'œuvre nécessaire et tant désirée.
Marie-Pierre Véraud à Copenhague. Deux lycéens poignardés hier dans des bus de Dijon, élèves dans le même lycée. Leurs jours ne sont pas en danger. Les agressions seraient liées à des provocations sur le réseau TikTok. La veille déjà, un autre élève du lycée Hippolyte Fontaine avait reçu des coups de couteau en sortant de l'établissement. Et vous, vous faites quoi pour les vacances? La zone B traîne les congés d'hiver demain soir et manifestement, les Français privés de ski l'an dernier ont décidé de se rattraper. Philippe Lefebvre, selon l'Observatoire National des Stations de Montagne, les hébergements seront remplis à 80% et ça n'est qu'une moyenne.
Ce n'est pas une surprise, ce sont les stations de sport d'hiver qui font le plein. Ce qui est plus surprenant, en revanche, ce sont les taux d'occupation des hébergements, qu'il s'agisse d'hôtels, de clubs de vacances ou d'appartements. C'est ce que constate notamment Benjamin Berger, le directeur général des agences Simalp.
On va parler effectivement d'un remplissage à 100% sur les semaines de février. Et chose inédite, en tout cas chez nous, c'est qu'on a déjà un remplissage qui va avoisiner les 100% sur les vacances de Pâques.
Et dans les Alpes du Sud, à Orcières, Jordan Juschka, le directeur de l'Office du Tourisme, s'attend même à battre des records de fréquentation.
On est en avance de plus 7,5 points par rapport à l'hiver 2019-2020. C'est très encourageant en tout cas.
En revanche, du côté des agences de voyage, on ne partage pas l'enthousiasme des professionnels de la montagne, reconnaît Jean-Pierre Masse, c'est le président des entreprises du voyage.
On constate un retard important de l'ordre de 35% pour les vacances à l'étranger, parce que les Français n'ont pas anticipé, même si actuellement ils rattrapent un petit peu, chaque jour ils ont rattrapé ce retard, mais ils n'ont pas anticipé leurs vacances parce qu'ils ont eu peur d'avoir des contraintes sanitaires qui ne leur permettent pas de voyager ou de revenir en France après leur séjour.
Mais certaines destinations tout de même la cote, c'est le cas de la République dominicaine avec 11% de réservations en plus durant ces vacances de février par rapport à la même période de 2019.
Nos rendez-vous, nos ordonnances et nos examens médicaux sur un carnet de santé numérique. Le gouvernement lance Mon Espace Santé. Aujourd'hui, on y sera tous inscrits d'office. À nous de nous en servir ensuite. Le précédent dossier médical partagé avait fait un flop. La pas question de tanguer. Les Français entrent en piste aux Jeux Olympiques de Pékin avant même la cérémonie d'ouverture de demain. Ce sont les qualifs en ski de bosse. Discipline de la reine Perrine Laffont, championne olympique 2018. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Florence.
Vous êtes sur zone dans les montagnes chinoises avec des skieurs français qui trépignent d'impatience dans leur fixation.
Oui, eux qui sont ici à Zhangjiakou depuis une semaine, premier arrivé et donc premier à vivre cette expérience olympique un peu particulière dans un village où je me trouve sous cloche, pas de contact avec les autres athlètes, pas de sortie, une cantine avec chacun son box pour éviter de croiser du monde. Sacha Théocaris est l'un des quatre membres de cette équipe de France de ski de boss.
C'est original, je m'attendais quand même à pire. Après, c'est sûr que c'est pas comme en 2018, il y a un peu moins d'euphorie entre guillemets, on est beaucoup plus dans nos chambres. Les seules fois où je sors, c'est simplement pour aller et à la piste d'entraînement et au self.
Alors avant leur entrée en lice, aujourd'hui, les bosseurs tricolores ont pu tester la piste à plus de 1700 mètres d'altitude dans un froid polaire. Ce matin, il fait moins 16 degrés ici. Benjamin Cavé vise une médaille.
On se jette bien les pieds là, les mains. C'est vrai que la neige à moins 20, elle durcit vraiment. C'est des conditions constante, vu que la météo change pas, donc c'est facile d'appréhender la piste et ça nous plaît bien.
Et c'est donc dans ces conditions que Perrine Laffont va tenter le doublé après sa médaille d'or, vous l'avez rappelé il y a 4 ans en Corée du Sud, sur une piste nouvelle avec une neige 100% artificielle.
Je pense que le plus dur, c'est l'adaptation un petit peu à la neige, en fait, qui est hyper abrasive et qui change un petit peu les repères sur les skis. Petit à petit, je me mets en place sur la piste et voilà.
Alors, aux bosseurs maintenant, Florence, de montrer la voie dans ces JO, décide hors normes.
Jérôme Val en direct des montagnes chinoises pour ces Jeux d'hiver. Pardonnez-moi, je n'ai pas retenu le nom du site. Deux joueurs du PSG envoient le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Abdou Diallo et Idrissa Gana Guèn ont marqué 3 buts hier et battu le Burkina Faso qui n'en a mis qu'un. Les Sénégalais affrontent dimanche à Yaoundé soit le Cameroun soit l'Égypte. La demi-finale a lieu ce soir. Voici pour finir un opéra joué depuis 1786. C'était la première des Noces de Figaro de Mozart. D'après d'après la pièce de Beaumarchais. Et voilà, revisiter ces noces à l'Opéra Garnier. Gros coup de jeune sur la mise en scène. Amélie Perrier, les rapports de pouvoir entre hommes et femmes ayant quelque peu changé depuis le XVIIIe siècle.
L'idée la plus forte de Nisha Jones, c'est de placer l'intrigue de ces noces dans les coulisses du palais Garnier. Une mise en abîme assumée par la metteuse en scène.
C'est un peu cette idée d'un théâtre qui est conscient de lui-même. Ça m'a frappée quand j'ai visité pour la première fois le palais Garnier. Quel bâtiment absolument incroyable. Mais il faut dire que les loges des solistes, vraiment, c'est comme un décor de mariage du Figaro, là.
Furieusement contemporaine aussi, les affiches contre les violences sexuelles placardées sur les murs, car le comte Almaviva, séducteur et volage, a bien l'intention d'exercer son droit de cuissage sur Suzanne avant qu'elle n'épouse son valet, Figaro.
Je suis une femme, alors j'ai le point de vue d'une femme. Ce qui manque à l'opéra, parce que c'est un peu un bastion masculin, on ne voit pas beaucoup de metteuses en scène, même le mot metteuse en scène, c'est assez nouveau, comme idée même.
Et dans ces noces, les femmes sont effectivement fortes et assumées, quand les personnages masculins, ridicules, perdent la tête devant le moindre jupon. Une version un peu grossière parfois, à la limite du théâtre de boulevard, mais qui s'en tire par le talent des interprètes, dont Léa Desandres, débutant ici à l'opéra en chérubin, ou encore le maestro Gustavo Dudamel, vif et brillant à la baguette de l'orchestre de l'opéra.
Les noces de Figaro, mise en scène Nettia Jones à l'Opéra Garnier. C'est à Paris jusqu'au 18 février.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Encore des grisailles, des brouillards ce matin, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, cause toujours de l'anticyclone qui ne bouge pas, et ce depuis le 11 janvier. Et à ces grisailles s'ajoute une perturbation qui glisse doucement par la Manche et qui donne quelques pluies de la Bretagne à la Normandie, Hauts-de-France, aux Ardennes. En revanche, vous allez voir le soleil se lever des Pyrénées au Massif central, au Jura, aux Alpes, en descendant sur la Méditerranée où le vent baisse d'un cran. Et ce matin, il gèle à Tarbes avec moins 4, moins 3 à Béziers, moins 2 à Aurillac, moins 1 en Lozère et à Guéret. Vous avez 4 à Mulhouse et Calvi, 7 à Paris, 8 à Lorient et 14 dans les Pyrénées-Orientales.
Et peu d'évolution cet après-midi.
Oui, les brouillards auront même du mal à se dissiper dans les plaines du sud-ouest et la perturbation va encore glisser vers les pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, jusqu'aux Ardennes. Et à noter que le soleil sera toujours en rendez-vous, mais il va se voiler au fil des heures avec quelques entrées maritimes aussi sur la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse. Et cet après-midi, au plus bas, il fera 7 à Langres, 8 à Nevers et Strasbourg, 9 à Paris, 10 à Lille. Vous aurez 11 à Fouesnant et Lyon, 12 à Toulouse, 15 à Aurillac, 16 à Narbonne ou Ajaccio ou Marseille, 17 à Antibes et on va frôler les 20 degrés au pied des Pyrénées.
Merci Marie. Pierre, merci à vous d'écouter Inter, 8h19.